Bonjour et bienvenue dans cette première édition de Tech Coffee. C'est un nouveau format qu'on va vous présenter au sein de cette newsletter qui va être environ une vingtaine de minutes où on va vous présenter les dernières nouvelles autour de Microsoft et d'autres technologies, donc dans le monde technologique. Je m'appelle Mickaël, voici Manuel.
Mon nom est Manuel, bonjour à tout le monde. Le sujet de la semaine, on va choisir un sujet chaque semaine, dans chaque édition. Le sujet pour cette semaine sera les bots. C'est un des sujets qui a été énormément discuté dans les dernières conférences qu'on a eues, notamment la Build. Et c'est un peu une nouvelle manière d'interagir en fait avec les applications. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des bots, s'il te plaît, Mickaël?
Oui, bien sûr. Donc, les bots, bien évidemment, ce n'est pas vraiment un nouveau concept. Déjà, il y a quelques années, on pouvait voir des bots, notamment par exemple dans des chats, salons de discussion, où il y avait des bots qui s'occupaient de manager les gens, qui parlaient trop, qui spammaient. Mais en fait, avec les dernières nouvelles technologies, avec le machine learning, etc., on a pu rendre les bots plus intelligents. Donc, les nouvelles technologies ont permis d'enrichir ces bots pour leur ajouter des nouveaux concepts. Donc maintenant, prenons un exemple très simple. Admettons que j'ai envie de commander une pizza. Et moi, j'adore jouer à l'ordinateur et je suis quelqu'un d'assez paresseux. Donc, moi, je n'ai pas envie de prendre mon téléphone et puis d'après mon livreur. À la place, je vais juste ouvrir Skype et je vais écrire « j'ai envie d'une pizza ». Et un bot va comprendre en fait mon langage naturel, va comprendre ma façon de m'exprimer pour en fait comprendre ce dont j'ai envie et envoyer à Manuel, par exemple mon livreur, directement la commande pour la pizza.
Donc, si j'ai bien compris, le robot, il va prendre ta commande vocale, il va parser l'information de cette commande et il va générer des actions qui vont faire que, au fait, finalement, tu vas recevoir ta pizza.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est un exemple très simple. Évidemment, l'intérêt du bot, ça va être de pouvoir étendre ce concept, pas seulement pour Skype, mais aussi pour plein d'autres services. On vous propose au sein du bot framework, bien sûr Skype, Slack, Facebook et beaucoup d'autres. Vous allez en fait pouvoir intégrer directement cette intelligence au sein même de l'application.
Donc on a entendu aussi, j'ai lu dans la presse que Facebook avait aussi annoncé des bots, similairement à Microsoft, mais nous on va quand même permettre au fait une intégration via nos bots de s'intégrer directement sur Facebook, c'est
exactement,
ça ?
Exactement. Donc nous, vous allez pouvoir choisir si vous voulez que votre bot marche avec Facebook, mais aussi avec d'autres services. Donc, mais c'est très intéressant de voir que Facebook s'intéresse aussi à cette technologie. Ça montre vraiment à quel point elle marque un pas vers le futur. Parce que quand on y pense, c'est vraiment en fait une nouvelle manière d'interagir avec les applications. On va pouvoir parler avec les applications en langage naturel, s'exprimer simplement avec elles et obtenir des choses que le développeur de l'application aura souhaité mettre à disposition. Par exemple, on pourrait imaginer qu'à terme, on parle directement avec notre assistant virtuel, par exemple Cortana, et que je lui dise simplement « j'ai envie d'une pizza à 19h30 ». Et Cortana sait où j'habite et elle contacte directement les personnes qui fournissent des pizzas à travers leur API bot. Et voilà.
Et est-ce que Cortana va être capable au fait de te livrer la pizza directement ou ça va se passer comment?
Alors, je pense qu'en tout cas pour les prochaines années, on aura encore besoin d'un intermédiaire humain. Bien que j'ai entendu dire que certaines autres compagnies faisaient des efforts incroyables en termes de livraison par bot aussi, par petit robot.
Bah, ça a l'air très intéressant. Si on passe au prochain chapitre de notre Coffee News, on va parler un peu des différentes news internationales au niveau de nos produits. On va rester d'abord un peu dans le même domaine. Et si on regarde ces services, je dirais, d'intelligence artificielle, on ne les retrouve pas uniquement dans ces robots, mais on les retrouve dans différents services.
Oui, tout à fait. Donc, les bots, c'est une application un peu spéciale de tout ce qui est intelligence artificielle. On peut le retrouver un peu plus général à travers de ce qu'on appelle maintenant les cognitive services. Si vous avez déjà eu des expériences avec les Microsoft Oxford API, c'est un peu la même chose. C'est juste la dernière version qui maintenant a été rebrandée sous le nom de cognitive services. Et en fait, les cognitive services, ça va être des années de machine learning, de training, de développement d'algorithmes qui vous seront mis à disposition à travers des API que vous allez simplement pouvoir très facilement consommer et obtenir de l'intelligence, des choses assez complexes. On parle par exemple de traduction, de reconnaissance d'image, reconnaissance de tête, des tas de choses comme ça qui sont des choses assez difficiles à faire vous-même, mais qui là, vous allez avoir des choses très robustes, très faciles à utiliser. Je ne sais pas si par exemple tu as entendu parler de Howl.net.
Oui, j'avais testé. Donc, c'était un service, je crois, qui permettait de reconnaître, au fait, l'âge de la personne en prenant une photo. J'avais testé ça moi-même et j'avais vu que c'était assez juste, finalement.
Ouais. Non, c'est un service justement assez sympa qui a été développé pour vous montrer comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces cognitive services d'une façon assez ludique. Donc, vous pouvez essayer. Si vous n'avez pas essayé, c'est how-old.net. Et vous allez pouvoir directement voir ces API en action.
Cool. Passons à un autre sujet. Je sais que c'est un sujet qui te tient spécialement à cœur. C'est les containers, parce que tu as fait une session notamment lors des derniers Tech Days ici à Zurich. Et il y a aussi là quelques nouveautés.
Oui, effectivement. Merci de poser la question parce que il y a maintenant à peu près 3 semaines, on a mis online les Azure Container Service. Donc les containers, c'est une nouvelle manière de virtualiser des applications, si on veut, et qui va en fait les permettre de s'abstraire du système d'exploitation sur lequel elles s'exécutent. On va pouvoir prendre ces containers et les déplacer un petit peu là où on veut. Et c'est ça qui devient très intéressant, parce que nous, maintenant, sur Azure, on va vous proposer ces Azure Container Service, qui est en fait une plateforme où vous allez pouvoir très facilement déployer vos containers. Et là où ça devient très intéressant, c'est que cette plateforme utilise exclusivement des outils qui sont totalement open source. Donc ici, vous voyez qu'on utilise Docker Swarm et DCOS de Mesosphere, qui sont les deux donc totalement open source, que vous pouvez implémenter dans vos propres data centers. Et ça va vous permettre une mobilité totale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre vos containers, les déployer sur Azure, faire du scaling, les manager, les rapatrier quand vous voulez sur vos propres data centers. C'est vraiment très intéressant.
Ok, cool. Moi, je sais que par exemple, avec les machines virtuelles, on a pas mal d'outils pour gérer les machines virtuelles, etc. Est-ce qu'il y a les mêmes outils pour les containers ?
Oui, d'une certaine façon. L'avantage en fait du container, c'est qu'ils sont... il n'y a pas vraiment de copie de tout le système d'exploitation, donc l'image sera beaucoup beaucoup plus mince, ce qui va permettre en fait de pouvoir bouger, enfin une mobilité de l'image qui est vraiment accrue. Mais oui, on peut s'attendre à un même niveau de tooling à peu près.
Cool. Donc maintenant, si moi je suis un développeur et j'aimerais commencer à développer des choses dans Azure notamment, où est-ce que je trouve les informations les plus importantes?
Alors, on a beaucoup, beaucoup de documentation pour les nouveaux venus sur Azure. Ici, ce qu'on vous a mis, c'est en fait un white paper qui va expliquer comment est-ce qu'on peut simplement migrer une application sur Azure, qui va un peu expliquer le processus, les différentes options. C'est très bien fait, c'est pour ça qu'on vous l'a mis. Bien sûr, si vous vous intéressez peut-être à un autre service ou à d'autres choses, il y a beaucoup de documentation sur azure.com. Vous pouvez aussi aller voir sur channel9.msdn.com. Ou mva.microsoft.com, où là vous allez trouver vraiment du contenu fait par des experts et qui vont vous expliquer chaque service d'Azure d'une façon très bien.
Très bien, merci Michael. Pour conclure un peu ce chapitre des news internationales, j'aimerais encore mentionner une étude qui a été faite par Forrester. Et c'est pour nous toujours très intéressant de voir qu'il y a aussi une certaine reconnaissance du travail que fait Microsoft dans le cloud par ses analystes. Donc ils ont notamment analysé nos services Hadoop et les ont catégorisés comme très performant, que ce soit au niveau de la fonctionnalité de l'offre ainsi que de la stratégie qui a été choisie par Microsoft. Donc voilà, ça conclut un peu notre partie news internationale, et j'aimerais partir sur les news un peu plus locales, et j'aimerais mentionner ici un partenaire, Office at Work, avec lequel on a eu un travail très étroit ces dernières années, et qui ont développé des applications sur Office. Donc lorsqu'on parle de cloud, on ne parle pas que de Azure, mais on a aussi notre plateforme Office 365. On est très heureux de voir que Office at Work a créé des applications très performantes, tellement performantes même qu'ils ont été invités à la Build Conference pour présenter leurs applications pendant la keynote. Et on est très fiers de ça, de voir vraiment un partenaire local suisse qui a eu la possibilité de présenter cette solution. C'est une solution très intéressante pour les entreprises qui va permettre notamment de manager, de standardiser leur template et de créer des documents dans leur entreprise de manière très efficace.
Donc tu dis qu'on peut créer des applications pour Office 365, mais ça veut dire quoi en fait pour le développeur? Est-ce que ça veut dire qu'il va pouvoir intégrer une application directement?
Exactement, il va pouvoir intégrer son application directement dans la suite Office, c'est-à-dire qu'il va pouvoir accéder à ses services directement depuis PowerPoint, Word ou Excel, et ces services peuvent être publiés aussi dans un store, dans le Office Store, donc il sera à disposition de tous les utilisateurs au niveau global, au niveau mondial.
D'accord, cool.
Et pour vous montrer un peu comment marche cette application, on a créé une petite vidéo, on a repris une vidéo de la Build Conference qui montre les différentes fonctionnalités. Donc je vous passe la vidéo.
Hi, this is John. He just finished the work on his brand new company logo. But how does he get his hundreds or even thousands of users to use it? Posting the logo to the company's brand portal website did not work last time, and it took years for the new logo to get adopted in Microsoft Word. John can't afford to wait around, so he searched in the Office store to find a compelling solution. Welcome to Office at Work. Office at Work has add-ins that automatically adjust logos, addresses, legal, and user information. And the great part is that these changes now take place instantly and globally. Users don't have to worry about being compliant. And best of all, John needs close to zero IT resources to run it. Now John can focus back on the work he loves most. Don't waste your time with copy and paste or manually fixing just a fraction of ill-applied logos. Download a free trial and start exploring what the Office at Work 365 web add-ins can do for you. Visit www.officeatwork365.com for further details. We believe that achieving more is something everybody deserves.
Voilà, donc la vidéo vient de terminer. Plutôt intéressant, non, Michael ?
Oui, c'était très édifiant.
Très bien. Alors, on va passer sur un autre sujet local. Un de notre travail aussi, c'est de collaborer aussi avec les startups. Donc, c'est une autre audience, d'autres partenaires avec lesquels on travaille de manière très étroite et on a différentes offres à leur proposer. Et justement, dans peu de temps, on va créer un événement spécifique pour les startups. Tu peux en parler un peu, Michael ?
Oui, bien sûr. Donc, on a déjà fait une fois une occurrence du BizSpark Startup Mountain Camp qu'on a fait dans une vallée très à l'est, à Phtan, donc dans les Grisons, où en fait, les startups sont venues pendant une semaine et on les a supportées, on les a aidées à construire leurs logiciels avec des experts techniques. Donc, on était toute l'équipe là-bas. On a aussi passé du temps avec elles, d'un point de vue plus social, histoire de les connaître. Et donc, en fait, ça s'est extrêmement bien passé. On a eu des feedbacks très positifs. Donc, on a pris la décision de réitérer cette expérience et de la refaire. Donc, cette fois-ci, on va la faire à Serpiano, au Tessin. C'est à côté de Lugano, un endroit magnifique. Même chose, on sera tous là. L'idée, c'est vraiment qu'on vous aide à développer votre application. Donc, on sera là pour vous. Et aussi, accessoirement, on compte bien profiter de l'endroit, de cette magnifique région qu'est le Tessin.
Ouais, moi, j'avais participé aussi à la première version à Aftan. Et je dois dire, c'était très agréable. Je pense que c'était très intéressant de voir l'échange, pas uniquement entre Microsoft et les startups, mais il y avait pas mal d'échanges aussi entre les startups. Il y avait une très forte dynamique qui faisait plaisir à voir.
Ouais. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il reste encore quelques places. Donc,
c'est juste.
N'hésitez pas à aller sur le site.
Les places sont limitées, donc inscrivez-vous rapidement.
Voilà. Et on espère vous voir tout bientôt au Tessin.
Exactement. J'aimerais conclure cette partie un peu locale en vous présentant encore notre site web qui est dédié pour les ASV, donc pour les fournisseurs de logiciels. Donc si vous créez du software et que vous êtes intéressé à collaborer avec Microsoft, eh bien, vous pouvez vous rendre sur ce site et vous allez y trouver toutes les informations importantes, notamment comment est-ce qu'on peut vous aider du côté technologique, mais aussi plutôt la partie business. Vous allez retrouver tous les événements qu'on va organiser ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Vous allez retrouver toutes les ressources techniques qui sont importantes pour vous aider au fait à faire ces premiers pas dans le développement de logiciels sur des bases Microsoft. Donc voilà, maintenant on a terminé cette partie, je dirais, news locale et on va passer au Pick of the Week. Donc Michael, quel est ton Pick of the Week ?
Donc moi, on nous a demandé en fait d'installer une application sur Office 365, donc c'est le manager de ma team. Et j'avoue que j'étais assez dubitatif au début. Et en fait, cette application est géniale. Elle s'appelle FindTime. En fait, cette application, elle va vous permettre, dans le cadre par exemple, dans un cadre professionnel où vous voulez faire une réunion avec d'autres personnes, vous permettre de facilement trouver un slot qui correspond à tout le monde. Là où c'est très intéressant, c'est que dans le cadre d'une entreprise, on n'a pas forcément accès au calendrier de tout le monde. Cette application, elle va en fait permettre de chacun de regarder les slots qu'il y a chacun de libre et automatiquement vous proposer des moments où tout le monde est libre et faire une sorte de doodle avec, on pourrait l'appeler comme ça, donc un petit poll où il y aura tout le monde, un sondage, voilà.
Mais c'est très intéressant parce qu'avec Doodle, on a justement le problème qu'on doit faire 20 propositions parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que les gens auront le temps. Alors qu'avec cette application-là, il y a déjà une certaine intelligence dedans parce qu'il va pouvoir aller vérifier le calendrier de chaque participant et faire les propositions en fonction de la disponibilité des personnes.
Exactement. Et aussi, elle va aussi générer donc une page web pour les personnes qui n'auraient pas l'application où eux aussi pourront voter et participer à la prise de décision commune.
C'est plutôt cool.
Ouais, c'est hyper cool. Vous pouvez y aller donc sur les liens qui sont indiqués ici. Vous pouvez l'installer sur votre Office. C'est super et je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire avec Office 365 au niveau applicatif.
Très bien. Je crois qu'on est à la fin de cette Coffee of the Week, c'est bien ça?
Tech Coffee.
Tech Coffee, exactement.
Tech Coffee. Donc, merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Manuel.
Bah, c'était un plaisir d'être là et puis on se retrouve dans 2 semaines, c'est ça?
Exactement.
Tip top.
Au revoir.
Au revoir.
All right, hello everyone. I'm super excited to be here with you today. I get the pleasure of showing you our vision for how we see intelligence integrated into one of the most popular ways that people communicate today, Skype. The Skype that you know and love is going to be smarter, more helpful, and entertaining. We're moving into a world where you will soon be able to plan trips, shop, even talk to intelligent bots, all from within your Skype chats. So I'm going to show you a demo of this next generation of Skype. Since it's Skype, it'll work on iOS, Android, Mac, web, you name it. But I'm going to show it to you on my Windows phone. So here I see that I have one missed notification. Let's see who that's from. And it's from Gurdeep. For those of you that don't know, Gurdeep's our corporate vice president for Skype, so I can't ignore this. So let's go into it. And you see I have a visual video mail from Gurdeep. I'm going to play it.
Hey, I just learned that you've been asked to keynote Codex again this year. Congratulations and thanks for everything you do for Skype.
That is amazing. I'm a huge fan of Codis. I'm going to send him a quick thank you. So right away, as you're seeing here, there are some new things in this next generation of Skype. You see this visual video mail. So we have a video message with the transcript right below. This is one of the examples where we're taking intelligence from things like Skype Translator and bringing them directly into everyday features like video messages. And now Gurdeep is telling me the team has sent me a little something, so that's really nice. I'll send him a quick little happy emoticon. So in this next generation of Skype, the other thing that you'll notice in the canvas is my personal assistant, Cortana, is always there in the upper right-hand corner. Cortana is there if I want to talk to her one-on-one or in a group, or even as you can see here, she's subtly improving my messages by highlighting key points in my text, like CODIS. So I can tap on CODIS, you see this rich card powered by Bing that's showing us that CODIS is a real organization that Microsoft sponsors to really promote women in technology, which is something that I'm very passionate about. So now you see Cortana is actually sending me a private message. I'm going to tap that, and I go into the one-on-one conversation I have with Cortana. So she's telling me the Cups and Cakes bot would like to know my location for delivery, and yes, I'll share it. And would I like to track delivery? Also, yes, I'll share it. So right away, what you're seeing here is that the agent, Cortana, is actually brokering the conversation with the third-party bot, the Cups and Cakes bot. Now I see this rich card that is showing me that the cupcake is on its way and that it will be here within a few minutes. All of this is happening within my Skype chats. This is just one example of the many ways that you're going to start seeing businesses using the power of Skype and Cortana to interact with their customers. Now, since I'm already talking to Cortana and I've committed to doing this keynote, I'm going to go ahead and try to plan the rest of my trip. Please block my calendar for CODIS from April 10th through April 12th. So you saw there I used push to talk because I didn't feel like typing. And right away, the other thing you're going to notice here is that Cortana actually has context from my previous chat with Gurdeep. So even though I just told it the dates, it actually knows the location and, you know, that it's from the conversation with Gurdeep. Now Cortana is proactively thinking about the next steps in coordinating my trip. So she's actually suggesting that I connect with the Westonbot. Anybody that knows me knows I normally stay at a Westonbot. And so what you see here now is Cortana has actually introduced the Weston bot into the conversation. But not only has she done that, she has given the Weston bot context, so I don't have to repeat myself. The Weston bot knows this is for Dublin and it's for those particular dates. All of this saves me a lot of time and effort. Now, there are suggested rooms. I'm going to choose the normal room. Confirmation. And just like that, in two simple steps, I was able to block my calendar and also book my hotel room. Now, there's nothing else the Weston bot can do for me, so I am going to say no thank you. And now, because Cortana has all my relevant details, the Weston bot can actually leave the conversation. Now we're seeing a third aspect of Cortana. She knows my connection, she knows who I communicate with, and so here you're seeing her actually suggest that when I go on this trip to Dublin that I communicate with my friend, Jenny. And I see this card, I could call her directly from here or video call her, but I don't know what time it is, and so I'm going to choose to message her. Clicking that takes me to the conversation I have with Jenny. The other thing you'll notice is that Cortana, because she has context about why I'm pinging Jenny, she's pre-populated the text with context around when I'm going to Dublin and basically why I want to talk to her. And fantastic, Jenny is available and she's even going to show me around town.